Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à cette table ronde intitulée Un bouleversement majeur à venir dans le monde du travail. Je suis Mathias Crouzet, je suis membre de l'Institut Kervégan et je suis une des personnes à l'initiative d'un concours de nouvelles de science-fiction qui donne lieu à cette table ronde dont on va pouvoir vous parler aujourd'hui. Alors, en quelques mots, l'Institut Kervégan, qu'est-ce que c'est ? C'est un think tank, un laboratoire d'idées citoyennes basé à Nantes, qui existe maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, dans lequel on se réunit en groupe, en commission thématique, pour travailler différents sujets. Ça peut être le numérique, ça peut être l'économie, le millefeuille territorial, le système de santé français, par exemple. Bon, y a différents sujets qui nourrissent, sur lesquels on travaille, on produit de la réflexion et on organise notamment des événements à ce sujet-là. Et on était quelques personnes à s'intéresser à la science-fiction, que ce soit en tant qu'amateur plus ou moins éclairé ou comme auteur amateur, encore une fois, pour certains. Et on s'est demandé finalement si la science-fiction, c'était pas un moyen beaucoup plus large d'ouvrir la réflexion. Et si, au-delà du simple loisir et du simple genre littéraire, il n'y avait pas aussi derrière la possibilité, finalement, d'une manière presque radicale, de se projeter dans le futur et d'imaginer ce qui pouvait être possible. Donc on s'est dit, bah, OK, banco, on va changer un petit peu notre méthode de travail. Et cette fois-ci, on a décidé d'ouvrir la réflexion à tout le monde en proposant un concours de nouvelles et en disant ben voilà, on va analyser ce que les gens vont nous raconter dans ces nouvelles et ça va nourrir nos réflexions. Alors, on s'est penché sur un premier sujet qui est celui de la notion de travail. Alors, le travail, si on prend la définition du dictionnaire, c'est un ensemble d'activités humaines, et j'insiste bien sur la notion humaine, appliquées à la production ou la création de quelque chose. Vu comme ça, c'est quelque chose voilà, qui parle à tout le monde. Quand on se penche un petit peu sur les écrits, là je vous ai pris deux extraits qui sont dans la Bible. En fait, on nous explique que le travail en tant que tel, c'est plutôt une bonne chose. Mais si c'est quelque chose de pénible, c'est parce qu'on l'a bien mérité. Si l'homme doit manger son pain à la sueur de son visage, c'est parce que finalement il a écouté Ève et qu'il a péché. Si Hercule est amené à faire ses 12 travaux, et ce n'est pas ses 12 tâches, c'est bien ses 12 travaux, c'est pour racheter le fait qu'il a horriblement massacré sa femme et ses 3 enfants. Donc la notion de travail, c'est vraiment une punition. C'est vu comme une punition. Et si on prend le sens étymologique, ça vient du trépalium. Le trépalium, c'est un instrument de torture. Voilà. Donc le travail, on peut se dire, ben voilà, c'est un sujet pas très agréable. La plupart d'entre nous, on travaille bon, de manière contrainte. On travaille essentiellement ben, pour gagner sa vie. Et pourtant, ben, j'ai envie de dire, on est le 1er novembre, un jour férié, et vous êtes là pour parler du travail. Donc, a priori, c'est que c'est un sujet qui intéresse. Et donc c'est voilà, pour ça qu'on a voulu ouvrir cette première, on va dire, session de concours de nouvelles de science-fiction sur cette notion-là, parce que c'est vraiment une thématique qui nous tenait à cœur. Alors, je vais vous présenter rapidement les nombreuses personnes qui sont autour de moi. D'abord, on a deux experts, deux chercheurs qui vont être là pour nous apporter un petit peu la lumière sur les différentes questions qui seront abordées aujourd'hui. On a d'abord Sophie Sacca, qui est chercheure en robotique humanoïde à l'École centrale de Nantes, et qui est également fondatrice de l'association Robots avec un point d'exclamation. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, oui. Alors donc, comme il a été dit, je suis chercheur en robotique humanoïde. Donc pour ça, j'ai passé 2 années au Japon pour me spécialiser dans ces machines extraordinaires qui sont des robots, donc de forme humaine. Et je mène en même temps l'association Robots, donc une réflexion sur comment aujourd'hui les robots peuvent être utiles dans la société. Voilà, donc du point de vue de la recherche, je me concentre plutôt sur l'équilibre, tout ce qui est l'équilibre humain, la retranscription sur des machines humanoïdes. L'objectif à long terme, c'est de faire de la prothèse, de l'assistance au mouvement autonome pour des gens, par exemple, qui sont en dégénérescence nerveuse ou des choses comme ça, que les robots puissent prendre le relais, des machines robotiques, en fait, puissent prendre le relais de fonctions biologiques qu'on aurait perdues. Au niveau de l'association, bon, on réfléchit comment accompagner la mutation actuelle de l'association, parce que de toute façon, ils arrivent, les robots. Donc le mieux, on essaie de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Voilà.
Merci. Et nous avons donc Pascal Caillot, chercheur CNRS au laboratoire droit et changement social, et aussi passionné de science-fiction, je crois.
Pascal Caillot, donc chargé de recherche CNRS, juriste en droit social. Il y a quelques juristes qui font de la recherche au CNRS. Je crois qu'on n'est plus que 50 ou 60. On éteindra la lumière quand ce sera fini. Mais je suis un peu ému parce que d'habitude, je suis de l'autre côté, donc habitué des utopiales. Et donc ici,
magnifique montre.
Oui, ce sera plus tard. Cette fois-là, donc, j'interviens. Je travaille alors, au quotidien dans mon laboratoire droit et changement social, qui est un laboratoire de l'Université de Nantes, un laboratoire de droit. Je travaille sur l'analyse des relations sociales dans les différentes branches professionnelles. En France, il y en a à peu près 700, pour vous dire. Et donc, voir comment, justement, évoluent les classifications des différents emplois, l'organisation de ces différents emplois. Voilà.
Merci. Donc, voilà, nos deux experts vont intervenir ponctuellement dans le débat. Et tous les gens que vous voyez autour de moi, ce sont les auteurs. Les auteurs lauréats, en tout cas une partie des lauréats du concours, puisqu'il faut savoir qu'on a reçu plus de 160 nouvelles. Voilà. Dont la plupart d'une très grande qualité, et qu'il a fallu à un moment donné opérer un choix. Donc le choix s'est posé évidemment sur la qualité littéraire des nouvelles qui nous étaient proposées, mais également sur la pertinence des réflexions qui étaient aussi abordées, avec différents points de vue qu'on va découvrir. Je vais vous les présenter brièvement. Voilà, je vous incite à lire les nouvelles. Le recueil sera disponible. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous le procurer gratuitement dès la fin de la table ronde. Alors, on va commencer par Xavier Marc Fleury avec le travail assassiné. Où finalement, on se retrouve avec le travail qui est notion du passé, qui est juste bonne à divertir des millions d'oisifs accros aux réseaux sociaux. Et on a un monde qui est dominé par les networks qui sont eux-mêmes issus de grandes corporations type les GAFA. On a Anaïk Plassard avec le domaine des prières, où là, on est avec Mathieu Boulon avec Ennui, pardon. Donc là, c'est le chômage. Le chômage, finalement, la courbe s'est inversée, c'est tellement inversé que le chômage, il n'existe plus. Le travail non plus, d'ailleurs, en fait, puisque tout a été pris en charge par les robots qui se chargent de tout. Et on a un État-providence qui prend en charge tous les besoins. On pourrait se dire que ce serait génial. Le corollaire, c'est qu'on a des gens qui tombent dans une profonde dépression. Donc finalement, on a des angles qui sont très différents. Donc voilà, Anaïk Plassard avec le domaine des prières, où là, on a affaire à un monde en ruine, l'apocalypse climatique, la folie des hommes, tout est détruit. Et ne subsiste que des petites bulles dans lesquelles les gens arrivent à survivre de manière organisée. Et pour pouvoir survivre dans ce type de communauté, il faut pouvoir prouver son utilité sociale. Et c'est la condition sine qua non pour la survie. Sinon, on est livré à ce qui peut se passer dehors. Promodoro, avec « Dans une mer de noir ». Alors, Promodoro, c'est la tomate en italien, mais c'est aussi une technique de planification de la production qui date des années 80. Et le contexte, c'est un contexte de chômage de masse où, en fait, on a un système d'allocation qui est proche du système carcéral, où les chômeurs, pour pouvoir survivre, sont contraints de renoncer à tout libre arbitre, voire même, dans certains cas, à toute dignité. Encore quelque chose de très réjouissant. Olivier Caruso, les anguilles du coma. Alors là, Internet, vous connaissez tous Internet, la technologie évolue, la fibre optique se développe, mais en fait, on peut faire beaucoup mieux. Un cerveau humain, c'est plus puissant que n'importe quel ordinateur. Imaginez des millions de cerveaux humains connectés entre eux. L'information, c'est le pouvoir. Eric Batassi avec réduction du temps de travail. Le travail, c'est une denrée rare qui est, comme dans beaucoup de nouvelles, largement automatisée. Il y a quelques tâches qui sont réservées aux humains, des rares privilégiés, et puis en même temps, des multinationales qui font une compétition extrêmement forte, avec un contexte où on pousse les gens à profiter de leur temps libre et des loisirs. Donc on voit qu'il y a un paradoxe que ces multinationales ont évidemment résolu à leur manière. Elder Vegas, naissance universelle. Là, on parle de la notion du confort qui nous obsède tous. Voilà, on cherche tous le confort absolu. Et pourquoi s'inquiéter finalement ? Pourquoi se faire du souci si on peut se préoccuper de notre confort à notre place ? Et si finalement, la question du confort, ce n'était pas la question de l'ignorance ? Et enfin, nous avons le dernier auteur présent sur cette table ronde, Jigoku Kokoro, avec le bouton. Alors, pourquoi se compliquer la vie ? Le bouton s'occupe de tout. Voilà pour le très bref résumé de ces nouvelles qui, j'espère, vous donnera surtout envie de les lire. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec une première question. La thématique du concours, c'est un bouleversement majeur à venir dans le monde du travail. Alors, j'ai envie de demander à nos auteurs, qu'est-ce qu'un bouleversement majeur pour vous ?
Donc un bouleversement majeur, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin qu'un bouleversement disruptif. On parle beaucoup aujourd'hui avec le digital de nouveaux systèmes qui sont bousculés. Et enfin, moi, ma vision, c'est que majeur, ça devait aller au-delà. C'est-à-dire imaginer ce qui pourrait se passer après une révolution technique liée à la robotique. Et que deviendrait l'homme dans ce nouvel environnement ?
Pas d'autres commentaires sur les auteurs, non ?
Pour moi, le bouleversement majeur, c'était qu'en fait, le travail disparaisse et soit remplacé par une forme de bénévolat avec en échange un revenu minimum, on va dire, mais qui, au lieu de nous permettre, nous donne un confort, mais en fait, nous donne une vision complètement détruite du libre arbitre et nous oblige à faire... un certain nombre de choses et oublier la notion même de travail en le transformant en un bénévolat volontaire qu'on a connu dans les années noires du XXe siècle, on peut dire.
Si ça fonctionne. Le bouleversement majeur, c'est, pour moi, c'est quelque chose qui remet en question, qui pose des questions existentielles aux êtres humains et à leur place. Et qui change qui apporte des changements fondamentaux dans la condition humaine, le fait même de ce que c'est d'être en vie, la place qu'on peut y trouver et sur différents aspects de notre condition, quoi, de vie, de survie, d'épanouissement, ou est-ce que c'est même plus à l'ordre du jour l'épanouissement, le sexe, les générations futures, l'articulation avec l'environnement. Donc la condition humaine a plusieurs piliers, plusieurs aspects comme ça, et un bouleversement majeur, c'est un bouleversement qui touche un ou plusieurs de ces piliers à la fois, quoi.
J'ai envie de demander à nos experts, est-ce qu'on a nécessairement affaire à un bouleversement majeur, donc quelque chose qui arrive comme ça, une découverte technologique, une nouvelle race extraterrestre, voilà, quelque chose qui arrive de manière soudaine et inattendue, ou est-ce que c'est pas plutôt finalement une espèce de tendance de fond avec une évolution qui va se faire progressivement sans vraiment qu'on s'en rende compte ?
En matière de travail, de toute façon, il n'y a que des constantes évolutions. On arrive à interpréter un bouleversement majeur que de façon a posteriori. Ce n'est pas forcément les acteurs du moment qui vont se rendre compte qu'ils sont face à un bouleversement majeur. Donc on a des transformations dans la façon de penser le travail. Déjà, la question, c'est quoi le travail ? C'est le travail pour subsister ou c'est le travail aussi comme œuvre de création ? Paradoxalement, on nous demande d'être aujourd'hui les grands témoins par rapport à nos compétences professionnelles. Mince, c'est un jour férié. Donc, est-ce que je travaille ou pas, là, aujourd'hui, sachant que je viens dans une table ronde où je contribue à ma passion. Donc, quelle est la limite de ce qu'on appelle le travail ? Déjà, c'est une première question qui se pose. Les bouleversements dans la façon de penser le travail, il y en a eu tout au long de l'histoire. L'esclave est une chose, juridiquement, pour travailler. 8000 ans d'esclavage. Le servage n'est pas complètement une chose, mais c'est un humain privé de son libre arbitre. Il est attaché à un domaine ou à un seigneur, 800 ans d'histoire. Le salariat, 200 ans d'histoire, est-ce qu'on annonce déjà sa fin ou est-ce qu'il se transforme ? Ça, c'est des questions auxquelles on ne pourra répondre que dans l'avenir. Il y a des bouleversements dans la façon de l'organiser, le travail. Ça, c'est clair. On pourrait y revenir. On n'est plus dans les périodes du taylorisme d'un point de vue occidental. Ce n'est pas le cas dans toute la planète. On pourrait y revenir là aussi.
Pour ma part, je pense que l'homme a toujours réfléchi à un moyen de repousser ses limites et que l'essentiel de son travail se positionne là. Donc l'évolution actuelle n'est qu'une continuité de ce qu'on a toujours travaillé, depuis l'invention de la roue d'ailleurs, pour repousser les limites géographiques, les repousser les limites des compétences, des capacités, maintenant du corps même, même de la mort. Parfois, il y en a qui réfléchissent pour devenir éternel. Donc c'est juste une continuité de ce qu'on a toujours cherché à faire finalement, sauf que c'est pas la première révolution industrielle qu'on traverse, ce sera pas la dernière. Donc oui, il va y avoir un changement radical, mais c'est pas un sujet d'inquiétude.
Je le disais tout à l'heure en introduction, le travail c'est un sujet qui passionne. Et en fait, ce concours de nouvelles, de manière un petit peu, on va dire par surprise, a été lancé dans un moment un petit peu chaud au niveau de l'actualité, puisque c'était au moment de la loi travail, où il y avait des gens qui manifestaient dans la rue, il y avait des débats à l'Assemblée nationale, tout le monde avait à la bouche le mot travail. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un contexte qui vous a inspiré dans la rédaction de vos nouvelles, ou est-ce que finalement c'est quelque chose, c'est un sujet qui va dire occupe vos réflexions d'une manière générale, comment ça s'est passé dans la procédure d'écriture pour vous?
Je crois que moi, ce que j'ai surtout vu, en fait, c'était l'inquiétude par rapport au travail, bon, de la part des jeunes, à un moment où le travail est en train d'être détruit au fur et à mesure. Et il y a quelque chose, il y a un côté technique, il y a un côté technologique qui n'est pas intégré dans cette loi travail, dans la société, et que j'ai voulu faire apparaître un petit peu dans la nouvelle. Où on a un côté destruction du travail, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y en a qui ont parlé effectivement du revenu minimum. Moi, c'est vrai que j'ai pris un côté plus sombre où le travail devenait complètement détruit avec un chômage de masse, avec des algorithmes qui créent des algorithmes qui créent des algorithmes qui font qu'à la fin, l'humain est complètement séparé du travail. Donc, c'est effectivement un sujet de société qui apparaît, on va dire, en creux.
Je trouve que c'est difficile de comprendre à notre toute petite échelle d'une petite personne, de comprendre ce qu'on est en train de vivre dans l'époque qu'on est en train de vivre. Du coup, forcément, le contexte nous influence. Mais pour moi, quand j'ose m'exprimer ou quand j'ose sortir, écrire déjà sur un sujet, c'est qu'en général, ça s'articule entre mes problématiques que je vis, mes questionnements existentiels à moi, et que ça résonne avec ce que je vis autour de moi. Donc, par exemple, il y a des choses que j'entends beaucoup, c'est par exemple le malaise face à la question « qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais toi ?» Je me suis rendu compte que, par exemple, quand on est au chômage, qu'on n'a pas de travail salarié, donc on ne sait pas trop finalement quoi répondre à cette question, alors que beaucoup de gens disent, j'entends aussi beaucoup de gens dire, je me sens plus utile au chômage que quand j'étais salarié dans une boîte et que j'avais un rôle qui ne correspondait pas à mes valeurs. Maintenant, depuis quelque temps, j'essaie d'encourager les gens à dire qu'est-ce que tu fais, mais pas forcément dans ta vie de salarié. La question devrait plutôt être qu'est-ce que tu aimes faire, parce que, je ne sais pas moi, faire de la couture ou faire de l'accompagnement dans des associations, ou je ne sais pas, il y a plein de choses qui sont une forme de travail, qui sont, en tout cas qui ont un rôle social hyper intéressant et qui ne sont pas une réponse habituelle et sociale à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie. Moi, c'est ce genre de choses qui faisait articulation entre ce que je vois autour de moi dans la société et mes questionnements à moi. Et c'était en tout cas quelque chose dont on entend pas mal parler aussi, ce sont les bullshit jobs, les boulots, le nombre exponentiel de boulots dans la société qui sont, c'est difficile à décrire, j'ai pas forcément les mots justes là maintenant, mais peu valorisants ou qui ont une utilité sociale assez réduite. Et du coup, Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait en général à la science-fiction, c'est qu'on pousse le curseur beaucoup plus loin de certains paramètres et de se dire, les questions qu'on se pose maintenant, qu'est-ce que ça donne si on change certains facteurs. Donc c'est, le contexte, sans doute, oui, le contexte qu'on a autour de nous, oui, sans doute nous influence tous. Et je pense que les questionnements, les discussions autour de la loi de travail et le mouvement Nuit debout était beaucoup lié à ça, quoi. Le malheur qu'il y a, les gens malheureux qu'il y a dans la détresse qu'il y a dans le monde du travail liée au capitalisme et le besoin de sens que tout le monde ressent, quoi. Ça, je pense que ça a dû nourrir beaucoup de gens.
C'est un peu le sujet que j'ai essayé d'aborder aussi, c'est en abolissant complètement le travail. Imaginez un petit peu les réactions qu'on pourrait avoir si, vu qu'on est dans une société qui se définit, comme tu disais, vraiment beaucoup par rapport à ce qu'on fait professionnellement. Quand on est chômeur, déjà on n'a pas envie de le dire ou on est mal à l'aise par rapport à d'autres. Et c'est un peu une justification de notre place dans la société, en fait, dans les discours qu'on entend. Et je me suis demandé ce que ça donnerait une société sans travail, donc sans obligation de travail, comment on réagirait ? Et pour moi, logiquement, les gens chercheraient à faire ce que tu dis, ce qui leur plaît. Ils chercheraient à vraiment ce qui leur plaît et à appliquer ça dans leur quotidien. Et pour moi, la loi travail, le problème qu'a posé cette loi, c'est qu'elle est détachée aussi des envies des salariés et des travailleurs et de leurs besoins. C'était une loi c'est une loi qui a été faite pour des raisons économiques, mais qui est très détachée des aspirations des gens. Et là où je pense qu'on s'y est tous un peu intéressés, c'est quelles aspirations ont nos personnages dans ces futurs assez incertains.
Alors, moi, de mon côté, j'ai voulu prendre plutôt on va dire, le contre-pied de tout ça, parce que tout est venu au départ d'une phrase que j'ai entendue il y a très longtemps, quand j'ai commencé à travailler sur informatique, que de toute façon, un jour, on n'aura qu'à appuyer sur un bouton. Et par rapport à ce qui se passait, où j'étais relativement loin, parce que j'habite pas du tout dans les grandes capitales, la loi travail, les manifestations, et tous les jeunes qui avaient dans la rue pour parler de ça, qui servaient de leur smartphone, qui servaient des applications, des choses comme ça, je me suis dit, voilà, je suis parti complètement contre-vent en disant, si un jour on proposait aux gens de faire le métier qu'ils veulent en appuyant sur un bouton. Voilà, plus de responsabilité, plus besoin d'apprendre quoi que ce soit, faites votre choix, la liste est grande, de consommer le travail comme on consomme les produits numériques actuels. Voilà, qu'est-ce que deviendrait la société, jusqu'où on irait, et comme expliquait Anaïk Plessard, c'était tout simplement d'aller plus loin, jusqu'au bout. Voilà, si ça débordait au-delà du travail dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, c'était l'idée plus que qu'on vraiment dépersonnalise le travail au point d'en faire un produit de consommation vraiment lambda, comme si vous faisiez vos courses, vous achetiez un nouveau travail.
Dur de parler devant des gens. Moi, j'ai pas fait une nouvelle de SF en fait. C'est vraiment, on vit vraiment dans un monde où aller voir une AS et demander le RSA, c'est chiant, c'est dur, c'est un travail et c'est un travail dans le sens que vous disiez au début. C'est le travail, c'est chiant, c'est dur et c'est personne n'a envie de travailler en fait, je pense, dans le monde. Et dans les manifs contre la loi travail, les slogans qu'il y avait, c'était pas on veut travailler autrement, c'est on veut pas travailler. C'était une manif contre la loi travail avec un point d'exclamation. Je pense que je me suis perdu. Je pense qu'on est déjà dans une société. Enfin, on a toujours été dans une société qui pouvait exister juste parce que des gens étaient forcés de travailler, que ce soit l'esclavage, que ce soit le servage, ou que ce soit le travail salarié. Si les gens ne sont pas forcés de bosser, la société se casse la gueule et les riches sont plus riches et doivent travailler. Du coup, je trouve, science-fiction ou pas, c'est pareil, quoi.
Il y a quelque chose qui ressort, en fait. Enfin, nous, si vous voulez, on a lu les 160 nouvelles, et bon, toutes n'étaient pas bonnes. Mais s'il y a bien quelque chose qui nous a frappé. Et pourtant, on est des lecteurs de science-fiction, donc on a l'habitude de lire ce genre d'ouvrage d'anticipation. C'est la tonalité extrêmement négative, en fait. Enfin, quand j'ai résumé vos nouvelles tout à l'heure, on a des dépressifs, on a des gens qui sont aliénés, on a des gens qui sont, qui sont en état de survie minimum. Enfin, est-ce que c'est vraiment ça le futur du travail? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être moyen d'envisager quelque chose de positif? Est-ce que la technologie peut nous apporter quelque chose de positif? Est-ce qu'on peut imaginer que demain le travail ce sera beaucoup plus centré sur ce que les gens veulent faire et que ce sera un moyen de évidemment de subvenir à ses besoins, mais peut-être aussi de s'épanouir? Ou est-ce que c'est le futur du travail, c'est nécessairement des gens qui sont dominés, qui sont écrasés et un futur très sombre?
Bon, déjà, je crois que le passé et le présent du travail, c'est déjà un peu l'aliénation. C'est pas extrêmement... C'est pas un monde... Alors, le monde du travail, c'est vraiment, pour moi, le monde salarié. Hein. C'est pas le travail, la passion de ceux qui peuvent se payer le luxe de travailler dans un monde qu'ils apprécient, parce que je pense qu'ils sont très minoritaires. Donc, le futur du travail, ça va surtout être ce qu'on va en faire. La technologie, c'est juste un outil. Les avancées technologiques, ce sont juste des nouvelles possibilités qu'on s'offre. Le travail, ça va être surtout un problème de société et un problème politique, à mon sens. C'est-à-dire que ça va surtout être des choix, nos choix, des choix humains. Là où je vais en venir, pardon, c'est que... Oui, pardon. Là où je veux en venir, c'était où?
Sur le futur du travail.
Le futur du travail. Le futur du travail, pardon. Je voulais en venir quelque part. Hein.
Est-ce qu'on ne peut pas avoir une vision positive?
Est-ce qu'on ne peut pas en avoir une vision positive? La technologie, c'est une vision qui, pour moi, est uniquement positive. Quand on voit qu'on peut se soigner, se réparer, qu'on peut automatiser une quantité énorme de tâches rébarbatives, c'est évidemment positif. Après, il faut se demander pourquoi alors on est si pessimiste. Et je crois que c'est parce que le monde du travail, c'est un monde extrêmement paradoxal. Il est vraiment rempli d'énormément de paradoxes. Par exemple, nous, on est français. J'ai lu des études qui disaient que les Français étaient des salariés extrêmement performants. Et malgré tout, j'ai passé les 10 dernières années à entendre qu'il fallait baisser le coût du travail en France parce qu'on n'était pas du tout compétitif. C'est aussi un monde complètement paradoxal parce qu'on est, on voit bien que dans le monde occidental, on a de moins en moins de postes comparés au nombre d'actifs. Néanmoins, les gens qui sont dotés d'un travail sont poussés à travailler de plus en plus en quantité, en volume de temps et en qualité aussi.
Tout à l'heure, quand tu résumais un peu la nouvelle que j'avais proposée pour le concours, tu disais qu'on parlait d'une société où tout s'était effondré, d'un monde où tout s'était effondré, et les ressources naturelles et tout ça, mais en réalité, j'ai mis le point de vue sur une personne et on n'a aucune idée en fait de tout ce qui peut se passer autour de ce personnage. Ce personnage-là, elle-même, effectivement, comme il y a beaucoup moins de moyens d'information, en tout cas, elle n'est pas informée de ce qui peut se passer. De toute façon, je ne trouvais pas pertinent de le raconter dans le contexte de cette histoire-là. Mais en réalité, moi, si je prenais le temps de développer, d'étoffer beaucoup cette idée de base-là, j'ai l'impression que mon pressentiment sur un monde, un futur tel qu'il est là, en réalité, il y aurait quelques personnes qui sentiraient, il y aurait une espèce d'aristocratie qui aurait les moyens d'utiliser la robotisation, qui aurait les moyens de remplacer les parties de son corps qui ne fonctionnent plus par des, par des machines, qui auraient moyen de partager l'information et d'optimiser le corps, l'esprit, qui auraient sans doute même pourraient trouver le temps de développer leur spiritualité, de se reposer, de faire travailler les autres. Et que c'est, pour reprendre une expression aussi qu'on entend ces dernières années, ces 1% là seraient ultra minoritaires, pourraient sans doute quelque part vivre dans des bulles protégées et avec l'aide de la technologie, mais que ça pourrait absolument pas fonctionner pour toute l'humanité. On est beaucoup trop nombreux et on n'a pas les ressources naturelles pour ça. Et du coup, je suis optimiste peut-être pour ces 1% là. Enfin, peut-être qu'ils auront sans doute des questionnements existentiels et éthiques un peu emmerdants, mais il y en a déjà. Il y a déjà des 1% qui vivent comme ça dans des sphères et qui mettent en esclavage d'autres personnes. Et puis visiblement, ça n'a pas l'air de les empêcher de dormir. Donc, quoique, on n'arrête pas de lire des articles comme quoi ils dorment que 4 heures par nuit. C'est peut-être pour ça, en fait. C'est parce qu'éthiquement, ils n'arrivent pas à être en accord avec leur conscience.
Pour ma part, là, j'ai pas une grande vision super pessimiste. C'est juste que pour moi, il manque deux choses dans le monde du travail actuel qu'on devrait peut-être un jour projeter. Ça serait bien, ce qui serait le plaisir déjà. Hein, parce que sur 100 travailleurs, vous en avez peut-être 10 qui font un travail qui leur plaît. Et on peut parfaitement se faire plaisir en faisant un travail très chiant, hein. Mon travail est très pénible et pourtant j'adore mon travail. Et puis l'autre, c'est la reconnaissance, parce que vous avez beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont très motivés, qui s'engagent dans des voies professionnelles, plein d'idéaux, et la reconnaissance, elle arrive que quand ils ont 50, 55 ans, près de la retraite, on les pousse près de la porte en disant merci beaucoup, au revoir. Et je pense que c'est ces deux éléments qu'on devrait peut-être intégrer maintenant tout de suite dans le monde du travail, pour éviter d'en venir à ce que nous, on a tous écrit aujourd'hui, c'est-à-dire un monde où travailler, c'est une contrainte, travailler, c'est l'esclavagiste, où il n'y a plus que ça pour survivre, ou alors ça n'existe plus parce que on est allé encore plus loin que moi, ce que j'avais proposé, c'est-à-dire un monde où vous changez de métier un peu comme ça, un monde où les gens ont envie de travailler parce que le travail n'existe plus. Voilà, donc je pense que ce n'est pas un grand avis pessimiste en soi, c'est plutôt que si on n'agit pas maintenant pour replacer le travail autre chose que sa définition de base qui était de la torture et de la pénibilité, on pourrait peut-être en faire quelque chose de plus joli.
Ouais, moi, je voulais parler de ma vision qui est un petit peu différente, puisque moi, je considère que notre société occidentale est un petit peu névrosée, pour le moins qu'on puisse dire. Et en fait, on ne fait que retranscrire sur le travail nos propres névroses et notre névrose collective. Et il faut quand même reconnaître que la névrose est une maladie de riche. Parce que je pense que nous, on est en train de se poser des questions sur savoir ce que c'est que le travail, la qualité du travail, etc. Mais est-ce qu'on se demande si le petit Indien qui est en train de faire nos jeans, en train de crever en Turquie, les migrants, etc., est-ce qu'eux ont les moyens de se poser ces questions-là? Je ne sais pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se poser ces questions-là. Nous, on est peut-être justement là pour faire en sorte que plus tard, quand ils seront arrivés, entre guillemets, à résoudre leurs problèmes économiques actuels, pour parler des problèmes économiques, il n'est pas les mêmes déboires que nous par rapport au travail, quoi, justement. Mais notre vision, je pense qu'elle est pessimiste parce qu'on a les moyens et qu'on a le luxe de pouvoir considérer que le travail est uniquement quelque chose de pénible. Voilà, c'est ma vision.
Alors, nos experts, est-ce qu'on est foutus ou pas, alors, concrètement?
Alors non, c'est
pour ça que les gens sont venus, en fait.
La vision du travail, effectivement, est extrêmement pessimiste, mais pas pour tout le monde. Par exemple, si demain j'ai envie de manger un crumble aux fruits rouges, pour faire du crumble aux fruits rouges, il me faut des fruits rouges, du beurre, du sucre, de la farine. En tant qu'humain qui a un cerveau et qui est capable de construire des outils, je vais aller faire ma farine, extraire mon sucre, ramasser mes fruits rouges. Donc c'est du travail. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le travail. On va faire ça, je vais transpirer et tout. Mais dans l'objectif, en salivant d'avance, au crumble ou fruits rouges que je vais déguster. Si ça plaît en plus à mon voisin qui commence à m'en acheter, moi je commence une activité qui s'appelle une activité de travail, mais qui à la base n'est absolument pas un poids quotidien, mais un plaisir. Donc faut pas qu'on oublie la notion de plaisir. Pourquoi je travaille? Pourquoi dans la société on a besoin de travailler? Si on veut tous ces plaisirs aujourd'hui, donc la société nous offre un confort extraordinaire avec de très nombreux plaisirs, et ces plaisirs faut les faire. Donc on s'est organisé pour que certaines personnes fassent les tâches de manière répétitive. Et je ne crois pas que ce soit le travail qui nous gêne, en fait, mais son exploitation, peut-être. C'est la répétabilité, le fait de ne jamais avoir le choix, c'est-à-dire on va travailler, on va contribuer, c'est une contribution, le travail à la société, et je crois qu'on est tous d'accord à dire « Ok, je veux contribuer parce que j'aime cette société, j'ai envie qu'elle continue, et j'ai envie de continuer à profiter de ses plaisirs et de cet excellent crumble aux fruits rouges ancestral. » Mais la manière dont on me demande de faire ce travail, j'ai l'impression de ne plus avoir le choix, et du coup, je le vois négativement. Or, il faudrait que nous, on arrive nous-mêmes à... On parlait de névrose, c'est ça, mais il faut qu'on arrive à revoir ce travail d'une manière extrêmement positive. Et en plus, si tout le monde va travailler avec le sourire, on va avoir un environnement extraordinaire. Maintenant, les robots donc, qui arrivent pour prendre notre travail, est-ce que c'est un mal? Je ne suis pas sûr. La machine à laver, personne ne s'en plaint. Hein. Or, la machine à laver, c'était un sacré boulot avant le linge, hein, quand même, pour l'amener. Il n'était pas toujours bien blanc en sortant, quoi. Là, personne ne s'en plaint. La machine, la cafetière, enfin, le robot, ça va être pareil. C'est-à-dire, quand ils seront bien installés, personne ne va s'en plaindre. Le truc, c'est qu'on va avoir des machines qui vont faire les choses à notre place. Et la question réellement qu'on devrait se poser, c'est... Donc, ce crumble, si on me l'avait apporté tout fait, quel prix je donne à quelque chose pour lequel je ne me suis pas battu? C'est-à-dire, si tout m'arrive tout fait, est-ce que j'aurai la même notion de plaisir au quotidien de profiter de ces choses qui m'arrivent dans les mains? Donc, quel prix je donne à quelque chose pour lequel je ne me suis pas battu? Je pense que c'est ça la question de fond où il faut vraiment s'interroger. Est-ce que je n'ai pas envie de me battre? Si, j'ai envie de me battre. Et j'en tire un certain plaisir de se battre. Et je pense que tous les humains sont un peu fait pareil. Ils sont ravis de profiter de leur sous, donc issus de leur travail en fin de mois, etc. Si les robots sont là, effectivement, ça sera pas, on va se réorganiser, quoi. Ça ne sera pas la même chose.
Est-ce qu'on est foutu? J'en sais rien. Par contre, c'est vrai que c'est une question qui taraude, mais ce n'est pas nouveau. Les travaux sur la prospective en matière de travail, ils sont très anciens. Pour préparer cette table ronde, je relisais un rapport qui s'appelait le rapport Boissonna, qui date de 93, qui imaginait le travail dans 20 ans. Bon, régulièrement, on se repose la question, c'est quoi le travail dans 20, dans 30 ans? Déjà, c'est des prospectives qui sont limitées parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on imagine, même si on anticipe des révolutions technologiques. Ce qui est intéressant, moi, dans les nouvelles que j'ai lues, puisque j'ai eu la chance d'être membre du jury de ce concours, c'est que finalement, travers ces nouvelles, des questions qui traversent la société actuelle, hein, on ne peut pas se transformer, mais c'est le travail pour subsister, déjà. Mais le travail pour subsister, c'est quoi? C'est l'hyper-accélération de ce qui vous est demandé. C'est l'augmentation du rythme de travail pour arriver à avoir un niveau de vie décent, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est l'idée du revenu minimum qui permettrait à tout le monde de pouvoir bénéficier d'un certain revenu, quel que soit finalement ce qu'il arrive à produire. C'est également le travail comme élément d'identité, parce qu'après tout, quand vous rencontrez quelqu'un, que vous promenez pour aller à un concert, que vous promenez dans la rue, que vous sympathisez avec quelqu'un, les premières choses que vous lui demandez, c'est son pédigré, d'où il vient, et puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Généralement, c'est arrivé en quatrième question. Alors après, chacun se définit par rapport à ce qu'il fait. Ce qu'il fait n'est pas forcément son travail salarié, mais ça peut être, j'écris des nouvelles de science-fiction, mais c'est ce qu'il fait. C'est son travail. Donc c'est un élément d'identité aussi. C'est un élément de création, c'est la source de certaines utilités sociales. Et dans certaines nouvelles, il y a aussi l'idée de... Le travail, c'est aussi... ça va être un des vecteurs de l'homme augmenté, c'est-à-dire l'homme à qui on va ajouter des éléments technologiques afin qu'il réponde à la demande de travail. Donc on a lu tout ça dans toutes les nouvelles de science-fiction, mais ce sont les questions qui aujourd'hui taraudent complètement la société. Il y a eu une réflexion tout à l'heure sur la place de la technologie par rapport au travail. Ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis 200 ans, mettons, avec le développement du salariat, le travail, l'homme dans le travail est pensé par rapport à la mécanique. Le modèle du travail qui se développe dans le 19e siècle jusqu'au taylorisme, c'est Chaplin, c'est les temps modernes, l'homme est un rouage, c'est le rouage d'un mécanisme qui, in fine, doit aboutir à une certaine production de biens ou de services. Aujourd'hui, l'une des transformations à laquelle on assiste, et on le sent parfois de façon non explicite dans certaines nouvelles, parfois de façon explicite, c'est que ce rapport à la technologie dans le travail évolue, c'est-à-dire que le travail est en train d'être pensé de façon cybernétique. On demande aujourd'hui aux travailleurs... On le programme pour certains objectifs. On va avoir des feedbacks pour savoir finalement ce qu'il arrive à réaliser. Et il doit tenir ses objectifs. Et c'est par rapport à ses objectifs qu'il doit être finalement rémunérés. Ça, c'est une complète transformation du travailleur tel qu'il était pensé au 19e siècle. Le travailleur du 19e siècle, il était pensé pour un certain nombre de tâches, puis pour un temps de travail. Aujourd'hui, on voit qu'on repense à la relation de travail par rapport à une analogie technologique sans pour autant être tous impliqués dans des évolutions technologiques. Et je pense que dans les bouleversements du travail, il y a matière, à mon avis, à réflexion en ce moment sur ces questions-là.
Moi, je voudrais rebondir sur le truc des robots qui travaillent et des gens contents et tout ça et tout ça. Je pense que les gens, s'ils vont travailler, c'est pas par plaisir, jamais. Ils vont travailler parce qu'ils ont besoin de bouffer, de payer leur loyer, de survivre en fait. Et du coup, s'ils sont contents, c'est qu'on leur donne de la drogue peut-être avant ou un truc comme ça. Mais enfin, un monde où les gens sont contents d'aller travailler, je pense pas que ça puisse exister du tout. Et même si des robots arrivent et font les trucs, les tâches qu'on trouverait chiantes maintenant de faire, on trouvera toujours une solution pour continuer à donner des boulots inutiles et merdiques aux gens pour qu'ils continuent de bosser, parce qu'en fait on a besoin qu'ils bossent, parce que s'ils s'arrêtent de bosser, c'est que c'est des nantis. Si c'est des nantis, il faut partager les richesses avec eux. Et le but de cette espèce de casse de gens riches, c'est de rester riche. Et c'est les mêmes depuis longtemps. Enfin, je sais pas. Là, l'Institut Kervégan, par exemple, Kervégan, c'est un type qui était armateur, qui s'est fait une montagne de pognon sur la traite négrière. Et l'Institut Kervégan, il a été monté, si je me rappelle bien, par un grand patron de droite. Enfin, c'est toujours pareil, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. C'est des gens qui veulent qu'on continue de travailler, qui existent que parce que des gens travaillent pour eux. C'est des gens, ils vont pas nettoyer leurs chiottes, ils vont payer quelqu'un pour nettoyer leurs chiottes, pour nettoyer leur voiture, pour acheter leur pain au chocolat ou je sais pas quelle connerie. Enfin, ils peuvent bien avoir des robots pour le faire, ils trouveront toujours quelque chose à donner à faire à des gens juste pour être au-dessus.
Bon, heureusement, l'Institut Kervégan, c'est un peu autre chose aussi aujourd'hui. Y compris des gens qui travaillent pour gagner leur croûte. Et bien heureusement, on est au-delà de ça. Mais c'est une position aussi qui peut s'entendre. La thématique des utopiales cette année, c'est la question de la machine. Et c'est un sujet transverse qu'on retrouve dans l'ensemble des nouvelles. Historiquement, la machine, c'était celle qui, finalement, facilitait la tâche. Le travailleur, au début, il retournait la terre à la main. Ensuite, il y a eu la charrue, il y a eu les bœufs, etc. Maintenant, il y a les tracteurs, il y a les machines agricoles, les usines, etc. Et à lire vos nouvelles, en fait, la machine, aujourd'hui, c'est la machine qui a servi. Comment ça se passe ? Est-ce que la machine, c'est nécessairement, on arrive à un point de non-retour où la technologie nous dépasse et finalement, c'est elle qui prend le dessus parce que... elle est finalement plus efficace. Et après tout, si on trouve plus efficace qu'un homme, à quoi bon les hommes ? Ou est-ce que, encore une fois, finalement, on ne peut pas avoir une vision aussi où la machine reste un outil, et rien de plus qu'un outil ? Est-ce que demain, Sophie, tu parlais de la machine à laver ou du mixeur, est-ce que c'est la machine à laver qui va nous dominer ? Est-ce que c'est le mixeur ? Ou est-ce que finalement, tous les robots restent des machines et des objets utilitaires ?
Dans la machine, dans la réflexion autour de la machine et comment on articule notre condition humaine avec elle, c'est le rapport marchand qui biaise vraiment beaucoup les choses. J'ai pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais si on les prend l'exemple du lave-linge, alors ok, le lave-linge, on peut juste voir par ce biais des choses que ça améliore notamment la vie des femmes, puisque c'est beaucoup traditionnellement les femmes qui s'occupaient de laver le linge. Mais ensuite, ça, on a aussi dans la foulée, on a dans la même période, en tout cas, on a augmenté énormément la quantité de vêtements qu'on avait. Donc on passe vachement de temps à acheter des vêtements, à faire fabriquer des vêtements par des gens dans des très mauvaises conditions. Donc il y a toute une aspiration par l'envie de nous faire acheter des choses et de nous faire consommer qui qui fait que malheureusement les machines on s'en sert pas de la façon optimale. Il faudrait qu'on se pose, qu'on fasse tous partie d'une association d'un think tank pour réfléchir avant de fabriquer les machines, avant de les acheter. En général, une machine en fait elle compresse le temps pour faire quelque chose, mais finalement j'ai l'impression que ça a été prouvé par pas mal d'études que le temps qu'on a gagné grâce aux machines, on s'en sert pas pour vivre mieux. Visiblement, on fait juste que accumuler les choses qui sont mécanisées, qui sont aidées par les machines. Et je crois pas qu'il y ait une véritable qualité de vie qui en soit ressortie, quoi. Parce qu'effectivement, il y a le rapport marchand qui vient complètement biaiser. Ces bonnes choses que ça pourrait nous apporter.
Moi, c'est peut-être mon côté un peu vieux con, mais effectivement, je suis assez pessimiste par rapport au rapport à la machine. Au moment où j'écrivais, en fait, il y avait les manifestations de taxis contre Uber, et tous les Parisiens se moquaient des taxis, comme quoi c'était des vieux péquenauds du 19e siècle qui ne sentaient pas l'évolution. Et ce que disaient les taxis, c'était vous verrez bien quand vos boulots seront ubérisés à vous aussi, hein, vous verrez ce que vous direz. Et effectivement, maintenant, avec les algorithmes, etc., c'est plutôt les boulots qualifiés qui deviennent remplacés par la machine. Et les chercheurs ne savent pas comment ils vont être remplacés quand les journalistes seront remplacés par des algorithmes. C'est déjà le cas pour un certain nombre d'articles qui sont écrits directement, automatisés par des algorithmes. Les professeurs, les créateurs, les artistes, etc., qui seront remplacés par des algorithmes, pardon. On ne sait pas qu'est-ce qui va remplacer ceci. Donc, à moins de trouver vraiment un nouveau modèle où on redistribue toutes les richesses, mais ce n'est pas vers là qu'on va actuellement. On va vers, effectivement, un chômage de masse, une société inégalitaire. Et effectivement, on est sur un modèle qui est pessimiste pour l'instant.
Alors, ce qui est étonnant avec les machines en général, c'est qu'au départ, si on prend la machine à laver, c'était juste un rouleau qu'on tournait à la main. Donc plus tard, quelqu'un a décidé de mettre un moteur dessus. Si on part par là, il y a toutes sortes de machines. Il y a les machines du quotidien qui ont été là pour faire gagner du temps, soulager la vie, etc. On n'est pas esclave de ces machines-là, même si aujourd'hui, votre machine à laver tombe en panne, vous allez en acheter une autre. Vous n'avez pas le linge à la main, vous allez dans une laverie en utiliser une autre ou chez un ami. Pratiquement plus personne lave tout son linge à la main. Aujourd'hui, quand on voit que vous avez certains métiers comme le mien qui est entièrement dématérialisé, je passe mes journées à acheter des choses, à les faire rentrer dans une plateforme, je ne vois pas ce que j'achète, je dépense de l'argent que je n'ai pas. Ce n'est que des chiffres, c'est que l'informatique, et quand l'ordinateur tombe en panne, je suis complètement dépendant, je ne peux rien faire sans lui. Aujourd'hui, on est parfois volontairement, on s'est mis soumis à la machine. On le voit aujourd'hui, qui n'est pas sorti de chez lui en disant « Oh putain, j'ai oublié mon téléphone, il est où ? Je ne peux rien faire si je ne l'ai pas, je ne peux pas appeler, je vais me perdre, je n'ai pas de plan, etc. etc. » Il y a 10 ans, 15 ans en arrière, on était un peu moins tributaire des machines, c'est sûr. Mais progressivement, que ce soit dans le monde du travail ou dans la vie de tous les jours, on se laisse un petit peu volontairement glisser dans le siège de la victime parfois, parce que c'est plus simple. C'est plus simple de fermer les yeux... c'est plus simple de laver. Vous avez, comme on expliquait, vous avez les gens qui travaillent, qui fabriquent des choses dans des conditions ignobles et qui eux, ils ont rien chez eux. Hein, ils mangent limite dans 3 assiettes et demie. Ils lavent leur linge à la main, tout ça pour fabriquer la machine à laver qu'il y aura chez nous. Il y aura toujours quelqu'un en dessous de nous, ça changera rien. Mais je pense que quelque part aujourd'hui, on est un petit peu aussi coupable de ça, de se laisser glisser dans le rôle de la victime pour s'en plaindre après. C'est un petit peu facile de crier en disant oui, mais c'est pas normal, etc. Alors qu'au départ, on est un petit peu consentant. C'est mon avis.
Sophie, alors les robots demain ?
Oui, moi j'ai confiance. Donc pour répondre à la dernière intervention, déjà, il y a aussi une notion un peu judéo-chrétienne du confort et du plaisir qui n'est pas trop acceptée dans notre société. C'est-à-dire, si je ressens du plaisir, je dois payer, hein, je me flagelle. Le confort, c'est bien, quoi. Le confort, c'est bien. Je sais pas. Enfin, travailler sur les handicapés, leur permettre d'aller faire leurs courses comme tout le monde, c'est un confort pour eux. Des gens qui n'arrivent plus à marcher ou qui n'ont plus de bain. Le confort, c'est bien. Je crois qu'on devrait tous pouvoir se détendre en se disant, le téléphone me donne du confort ou la mécanique me donne du confort et je suis heureux. Voilà. Ensuite, alors par rapport au chômage de masse, peut-être que ça va arriver, mais ça durera jamais très longtemps parce qu'on va pas l'accepter. On est quand même en France, donc c'est un pays de chieurs. Hein, je veux dire, voilà, on est exigeant, on a de la qualité. Il y a de la qualité d'ailleurs même dans les nouvelles, hein, il y avait une excellente qualité et la population d'une manière générale, moi je suis assez, j'ai beaucoup voyagé, hein, 2 ans au Japon, 1 an en Angleterre, en Italie, enfin tout ça. En France, il y a une exigence de qualité forte dans la population. Le chômage de masse, on ne va pas l'accepter. Ça ne durera jamais longtemps parce que si on commence à avoir faim, je peux vous dire que là, on va vraiment montrer ce qu'on est capable de faire. Ça ne sera pas accepté par la population. Donc ça va changer. Et là, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance dans le système, dans l'humanité, dans la civilisation. Ce n'est pas la première révolution technologique qu'on traverse. Ça ne sera pas la dernière. Il y aura du travail dans cette définition de l'obligation ou du travail dans cette définition du bénévolat. Et il y a de l'argent aujourd'hui. Il y a de l'argent. Il pourrait être mieux redistribué. Mais c'est peut-être ça qu'il faut repenser. C'est la manière dont il est utilisé, par qui, comment il est contrôlé et comment on pourrait le redistribuer efficacement pour que les gens soient heureux et en profitent un maximum. Donc il y avait d'autres questions. Après les robots, c'est bien, quoi. C'est oui, demain, bah, on n'aura plus besoin de faire des tâches à l'usine. Et il y a 100 ans, on vivait difficilement et tout cassé jusqu'à 40 ans. Aujourd'hui, on vit à peu près bien jusqu'à 70. Demain, bah, on vivra super bien jusqu'à 120. C'est ça, les robots. Et pendant ce temps, on va retrouver ce plaisir d'avoir du temps, parce que pour concevoir, pour innover, ça prend du temps de créer. Là, actuellement, on manque de temps. Si les robots nous redonnent ce temps du bonheur, de la discussion, de la reconstruction, moi, je trouve ça super. Alors, au niveau de la technologie, on a le choix. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir de télé. À chaque fois que je la vois chez quelqu'un, je me rappelle pourquoi je n'ai pas de télé. Mon téléphone, si je vous montre, vous allez être mort de rire. D'ailleurs, tout le monde me dit, mais comment tu peux rester avec un tel truc ? Enfin, voilà, j'ai un téléphone, mais c'est vraiment pour dire, c'est un truc qui téléphone, quoi. On a le choix d'accepter ou pas la technologie, même l'ascenseur qui est quand même extrêmement pratique pour certaines populations. Moi, je monte les étages à pied, même s'il y en a 6, hein, je les monte à pied. Alors, pas systématiquement, il ne faut pas non plus être complètement monomaniaque, mais on aura toujours ce choix d'accepter ou pas les nouvelles règles, de vivre esclave ou pas de la technologie. Ce choix, on l'a. Et c'est à nous de le prendre. Après, si on préfère se reposer et se plaindre, ça, c'est un trait de caractère, c'est pas une situation.
Merci. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions dans la salle. Si vous avez des questions, vous voulez bien vous signaler pour nos auteurs ou pour nos experts.
Bonjour. Alors moi, je suis un peu choqué là d'entendre un applaudissement face à ce que je viens d'entendre. C'est clairement un discours libéral libéral. Enfin, c'est un peu un truc de philosophie hyper chelou là de dire ouais, on a toujours le choix et du coup les déterminismes n'existent pas. Ça y est, ouais, si on a quelque chose, si on a des dominations sur nous, si on est quelque part, on l'a choisi quoi, carrément, quasiment, c'est ça. Et du coup, ça me pose vachement question quant au moteur. Qui motive vos actes quoi, dans la vie et dans votre idée du confort et dans votre idée du transhumanisme ou de la robotique ou je sais pas. Et du coup, moi, la question que je me pose et que j'aimerais poser là, dans cette question de robotique, et que là, apparemment, on a fait exprès, on a fait mine de pas en parler quoi, de ce truc, c'est la matière première en fait. Et qu'il faut toujours en fait des gens. Au bout de cette chaîne robotique, au bout de cette chaîne industrielle, qui extrait les minerais de base. Et du coup, c'est-à-dire que déjà, il faut qu'il y en ait des minerais de base. Et il faut obligatoirement qu'il y ait un sous-prolétariat, pour utiliser des grands mots, qui extrait ces minerais-là. Du coup, moi, ça me paraît complètement hors de toute réalité. Actuelle, naturelle, enfin hors de toutes les lois qui régissent sur cette planète, au vu des bilans écologiques qui sont ceux qu'on a actuellement quoi. Moi, ça me paraît ouf de parler de futur de la robotique, du mécanique et tout ça, en fermant les yeux comme ça sur toutes les. On en a parlé quoi, sur le fait qu'on est une minorité à avoir accès à toutes ces technologies. Même nous, en tant que. Même si on est classe moyenne ou minorité dans un pays riche, les pays riches sont aussi minoritaires à l'échelle du monde. Et du coup, moi, ça, j'ai l'impression... c'est...
Une réponse courte sur cette finitude des ressources.
Une réponse très courte. Mon travail en tant que fondatrice et présidente de l'association Robots est de mettre à disposition de tout le monde la technologie robotique, gratuitement. Vous êtes bienvenue.
Peut-être une question encore ?
On en reparle après.
Alors, on me fait signe qu'on va manquer de temps. Alors, simplement, cette petite conclusion, c'est un mail qu'on a reçu à l'Institut Kervégan d'un participant qui nous dit « Bonjour, j'écris une nouvelle sur le thème proposé, je renonce à vous l'envoyer. La réalité dépasse largement ma fiction. Si vous voulez connaître ma chute, suivez l'actualité. Prochain thème, survivre au collapse global. » Ça laisse songeur. Un dernier mot pour remercier quand même nos partenaires, donc évidemment les Utopiales, qui ont permis la tenue de cette table ronde. La Talente, qui nous a accompagnés aussi bien sur la gestion du concours, sur la sélection des nouvelles, et qui a permis d'offrir des prix à nos lauréats. Puis enfin, le lieu unique qui nous a supportés aussi. Les membres de l'atelier, Martin Holstein, Gaël Bernico, Karen Lavaux-Bousca, André Lucas, Gwenaëlle Boisdin, Stéphanie Rabot et moi-même. Et enfin, vous pouvez donc télécharger le recueil gratuitement PDF, EPUB ou Kindle sur le... Si vous voulez bien remettre le QR code, s'il vous plaît. Sur le QR code qui va s'afficher sur les écrans. Non. Tant pis. Donc, vous le retrouverez sur les flyers qu'on va vous distribuer. Sinon, vous allez sur bit.ly SFIK, tout simplement. Voilà. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi.